Les années-lumière, édition du 21 février 2010. La génétique des anciens humains réécrit l'histoire de leur migration. Bonjour, ici Yannick Villedieu, équipe. Bienvenue à cette édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette édition, elle commence avec les humains d'aujourd'hui et avec leurs besoins d'isotopes médicaux. Gaël, Lucia, Berdou, la crise des isotopes, comme on dit, force des scientifiques à imaginer de nouvelles façons de les produire.
Et si on pouvait fabriquer les précieux isotopes dans un simple accélérateur de particules? C'est ce qu'ont accompli des chercheurs de Sherbrooke.
Sophie-André Blondin, les anciens humains, c'est vous.
Enfin, Yannick, personnellement, j'espère être plutôt moderne, tout comme les technologies qui ont permis de séquencer le premier génome d'un homme préhistorique. Il habitait le Groenland il y a 4000 ans et il était plutôt chauve.
Il y aura ensuite le courrier des années-lumière. Une question angoissante cette semaine. Uranus va-t-elle un jour quitter le système solaire? Puis il y aura la chronique des années-lumière. Yves Gingras va nous parler de la science chinoise qui est en plein décollage, côté fraude scientifique aussi. Deuxième heure, Chantal Srivastava, une météorite vedette fait de nouveau parler d'elle.
La météorite de Murchison tombée en Australie en 1969, c'est que des scientifiques viennent d'y découvrir une diversité de composés chimiques jamais observés auparavant, Yannick. Et ça, c'est toute une découverte parce que c'est un des vestiges de la création de notre système solaire.
Waouh! Alors après le petit journal de la science, je vais vous parler d'allergies alimentaires, notamment de leur fréquence, de leur gravité. Et pour terminer l'émission, Gaël, vous recevrez l'auteur de la semaine.
Nicolas Chevassu-Aulouis publie au Seuil « Un iceberg dans mon whisky quand la technologie dérape ».
Mais pour commencer, isotope recherché. Alors revenons donc sur ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la crise des isotopes. Elle est entrée dans un nouveau chapitre cette semaine avec la fermeture d'un autre réacteur nucléaire, Gaël.
Oui, celui de Petten aux Pays-Bas, le deuxième plus important producteur de radioisotopes médicaux après celui canadien de Chalk River. Ces deux réacteurs mis ensemble fournissent en temps normal à peu près 70% du fameux technétium-99. Donc le réacteur de Petten sera fermé pendant 6 mois pour des réparations. Or celui de Chalk River, on le sait, est fermé, lui, depuis l'été dernier et ne rouvrira pas avant le mois d'avril. Pour vous faire un petit rappel, le technétium-99, c'est un produit radioactif, un sous-produit, si on veut, de la production d'énergie dans les centrales nucléaires. On injecte ce technétium dans des patients et grâce au rayonnement qu'il émet, on peut voir certains processus biologiques pour simplifier. Ça sert, par exemple, à détecter des tumeurs ou encore à déceler des maladies cardiaques.
Ce qui veut dire que c'est très utilisé, hein?
C'est très, très utilisé. On parle de plusieurs dizaines de millions d'examens médicaux par année dans le monde. Donc, on comprendra qu'avec les 2/3 de la production de cet isotope en suspens, et parce que c'est un produit qui dépérit rapidement, donc qui ne se stocke pas, les équipes médicales vont devoir faire preuve d'imagination pour réorganiser les horaires, rediriger les patients vers d'autres examens, etc., pour pouvoir, bien sûr, continuer à traiter les malades. Et les chercheurs, eux, ne sont pas en reste. Ils veulent faire leur part pour trouver des solutions. Plusieurs centres canadiens de recherche en médecine nucléaire, notamment celui de Sherbrooke, se sont d'ailleurs lancés dans la production expérimentale de technétium-99 avec d'autres moyens. Ils utilisent en fait un cyclotron, un accélérateur de particules. C'est un appareil pas mal plus petit et pas mal plus simple qu'un réacteur nucléaire. Et ils ont effectivement réussi à produire à Sherbrooke, dans un cyclotron, du technétium-99M, M pour métastable, c'est son petit nom officiel, qui, disent-ils, pourrait remplacer celui qui vient des réacteurs.
Et ils s'y sont pris comment?
Eh bien, au lieu d'utiliser de l'uranium, qui est un produit, disons, sensible et qui produit, entre autres, des déchets nucléaires, eh bien, dans le cyclotron du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, on fabrique du technétium-99 directement à partir d'un métal, le molybdène. J'ai rencontré dans les laboratoires du Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke l'une des responsables de ce projet, Brigitte Guérin. Voici ses explications.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une source, d'une ce qu'on appelle une cible. C'est du molybdène sans enrichi. Et ce produit-là est essentiel pour produire le technétium-99 métastable. Donc, on a fait une réaction nucléaire contrôlée à partir d'un accélérateur de particules circulaires. On a transformé de façon sélective le molybdène en technétium-99 métastable.
Est-ce que c'est très différent de fabriquer du technétium-99 dans un cyclotron par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans un réacteur nucléaire?
Le processus est très différent parce qu'avec le réacteur nucléaire, on ne produit pas directement le technétium-99 métastable. C'est une réaction de fission nucléaire à partir de l'uranium-235 et de la fission nucléaire, plusieurs radioisotopes sont formés, dont le molybdène-99. Ce molybdène-99 est radioactif. Il est envoyé... Par exemple, si on prend exemple ici au Canada, il est envoyé aux États-Unis pour fabriquer ce qu'on appelle des générateurs de molybdène et retourner par la suite au Canada. Ce générateur de molybdène, le molybdène en étant radioactif, va décroître et va produire le technétium-99 métastable. Donc, c'est une production indirecte de technétium-99 métastable via le réacteur nucléaire, si on veut. Ça se fait en deux étapes. On passe par le générateur. Pour ce qui est du cyclotron, bien, c'est une approche qui est beaucoup plus directe. Les deux radioisotopes, que ce soit le technétium-99 métastable produit par cyclotron ou celui produit par réacteur nucléaire, indirectement par le réacteur nucléaire, sont exactement les mêmes espèces. Ils ont exactement les mêmes propriétés, les propriétés radionucléidiques, radiochimiques. C'est ce que nous avons démontré avec notre petite étude de concept, là, finalement.
Donc, c'est ça. Vous êtes parti de molybdène pour en faire du technétium-99. Donc, vous avez un peu simplifié, si on veut, le procédé et vous le faites sur place. Et donc, vous avez comparé la qualité de ce produit-là avec celui qu'on reçoit habituellement dans les hôpitaux?
Oui, oui. Un gros défi, quand il y a une pénurie comme ça, c'est sûr que la demande est là. Donc, on va s'attaquer à essayer de résoudre les problèmes de pénurie. Nous, ce qu'on a fait avec notre étude de concept, c'est qu'on a démontré qu'on était capable d'en produire du technétium-99 métastable, mais qu'également, on était capable de l'obtenir, que la qualité du produit final, si on veut, était identique à celui qu'on a présentement sur le marché, qui provient d'un générateur nucléaire.
Vous avez vérifié la qualité du produit, mais il n'a pas encore servi à des examens médicaux sur des patients.
Non, pas chez les patients. Parce que la première étape, de toute façon, c'était de l'essayer. On a fait de l'imagerie chez les petits animaux. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que le même opérateur faisait les différents traceurs. On a fait trois traceurs différents, des traceurs les plus utilisés en clinique, entre autres un traceur pour la scintigraphie osseuse. On a fait aussi un traceur pour l'imagerie cardiaque et on a regardé chez les petits animaux et on a comparé au technétium provenant de technétium 99 provenant de générateur et c'est identique. On a vraiment démontré que la qualité des images et la biodistribution du produit étaient identiques.
Intéressant, effectivement, la chercheure, donc Brigitte Guérin. Alors Gaëlle, le technétium-99 produit dans un cyclotron serait semblable à celui qui sort d'un réacteur nucléaire. Est-ce qu'on est capable maintenant, grande question, d'en produire assez dans un cyclotron pour la demande?
Eh oui, c'est la question majeure. D'abord, il faut réussir, bien sûr, à automatiser, à optimiser tout le procédé d'extraction de ce technétium qu'on a réussi à produire avant de penser à une production à plus grande échelle. Et puis, il y a une question de puissance de l'appareil. Mais le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a commandé un nouveau cyclotron de plus haute énergie qui est attendu d'ici la fin de l'année. Et les chercheurs comptent là-dessus pour établir une production de technétium 99 digne de mention. On écoute à nouveau Brigitte Guérin.
Présentement, on a déjà commencé des études à voir quels sont les rendements obtenus et tout ça, et ça s'annonce quand même très bien. Mais l'étape ultime va être d'essayer à partir de conditions optimales. C'est vraiment un cyclotron de plus haute énergie pour produire suffisamment. nos estimations sont très réalistes et normalement, si les estimations sont bonnes, on devrait être capable de fournir 50 % de la demande du Québec avec un cyclotron. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, ça répond pas à la demande au Canada. Donc, le travail derrière tout ça, c'est idéalement d'établir un réseau de cyclotrons à la grandeur du pays. Et avec la redondance, donc en ayant de 8 à 10 cyclotrons localisés dans les grands centres, on pourrait de cette façon-là satisfaire la demande canadienne.
Brigitte Guérin du Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke. Alors Gaëlle, il y a encore du travail, on dit, on n'est pas tout à fait au moment où les cyclotrons vont remplacer les réacteurs nucléaires pour la production donc de ces fameux isotopes médicaux.
Non, c'est pas pour demain, mais l'équipe de Sherbrooke croit que dans 2 ou 3 ans, le Canada devrait être en mesure d'avoir un centre prêt à produire de façon continue du technétium-99 à partir d'un cyclotron.
Vision optimiste, tout le monde est d'accord?
Non, tout le monde n'est pas d'accord. J'en ai parlé avec le président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec, le docteur François Lamoureux. Pour lui, ce procédé de fabrication a un inconvénient majeur, celui de la quantité, et ce n'est pas demain la veille qu'on va surmonter cet obstacle. Alors, autant continuer, dit-il, à miser pour l'instant sur des méthodes qui ont fait leurs preuves.
Dans le monde entier, tous les pays, devant la faille, je dirais, du Canada, ben les États-Unis, qui dépendaient presque exclusivement du Canada, vont bâtir des réacteurs nucléaires. Et la Belgique va en bâtir un nouveau. Ceux qui ont des vieux réacteurs vont les remettre à jour. Tous les pays dans le monde vont vers un réacteur nucléaire. Et un comité d'experts au Canada, qui a remis un rapport il y a environ un mois et demi, recommande aussi au gouvernement canadien de reconstruire un réacteur nucléaire. Parce que ça, c'est une méthode reconnue mondialement, connue, bien maîtrisée, très efficace pour produire des quantités extrêmement importantes. Le cyclotron ne sera jamais, à mon avis, une solution commerciale. Mais c'est une solution qui peut permettre la production d'une petite quantité de technétium pour régional. Alors, si on s'en allait théoriquement vers des cyclotrons, il faudrait établir tout un réseau de cyclotrons. Mais quand on met un cyclotron, c'est pas juste mettre un cyclotron, là, il y a toute une infrastructure, il y a des espaces, il y a surtout des compétences scientifiques qu'il faut qu'ils soient là. Et Sherbrooke a cette structure-là.
Donc pour vous, même si on décidait d'avoir des cyclotrons qui serviraient pour faire du technétium, c'est pas une avenue réaliste?
Bien, ce que je veux dire, c'est qu'il faut supporter le projet de Sherbrooke. D'ailleurs, l'association le supporte puis a demandé au gouvernement de supporter parce que, comme j'ai dit, ils font de la recherche. Ils ont une infrastructure exceptionnelle pour faire la recherche. Ils vont fabriquer puis ils fabriquent des nouveaux traceurs. Mais l'aspect du technétium avec le nouveau cyclotron qu'ils devraient acquérir puis qu'on supporte, c'est que ça va leur permettre de faire un peu de technétium. Mais localement, ils pourraient. Alors, le petit peu de technétium qu'ils vont pouvoir fabriquer, bien, ça va aider la pénurie. Mais ça, c'est pas une solution commerciale pour le moment.
Est-ce que ce serait pas quand même une façon potentielle de se détourner de ce qui, pour l'instant, en tout cas qui était jusqu'à maintenant presque un monopole de la part du Canada parce qu'il avait le réacteur de Chalk River? Est-ce qu'on gagnerait pas une certaine autonomie à fabriquer sur place dans un hôpital ou dans une région, par exemple, du technétium?
Non, c'est pas une solution qui est réaliste. Vous savez, le Canada, même s'il est il y a beaucoup de connaissances dans ce secteur-là, il y a d'autres pays aussi, les États-Unis. Les États-Unis, pourquoi ils n'ont pas développé ces réacteurs-là? C'est tout simplement parce que le Canada en avait, puis il y avait comme un surplus. Il y avait comme un surplus de technétium. Alors là, les autres pays, tous, sans exception, vers des techniques de production commerciale sous forme de réacteurs.
François Lamoureux, donc spécialiste en médecine nucléaire. Gaëlle, le docteur Lamoureux, donc, parle des autres pays qui continuent à construire des réacteurs nucléaires qui pourront servir à faire des isotopes médicaux. Mais le Canada, lui, il a déjà construit des réacteurs, non?
Eh oui, les fameux réacteurs Maple, 2 réacteurs qui devaient remplacer justement celui de Chalk River pour la production de radioisotopes. Le Canada avait investi des centaines de millions de dollars là-dedans, mais le projet a été abandonné en 2008 par le gouvernement Harper. Et les raisons de cet abandon en ont laissé plusieurs sur leur faim. Officiellement, les appareils, une fois qu'on les a mis à l'essai, ne se comportaient pas exactement comme prévu. Mais c'est une explication que le docteur Lamoureux n'avale pas facilement. D'ailleurs, C'est le cheval de bataille de son association qui réclame un comité d'experts indépendants pour se pencher sur les maples et dire si oui ou non ils peuvent être remis sur les rails.
Mm-hmm. Mais en attendant les résultats, peut-être que ça va être une troisième technologie, une autre technologie qui va prendre la place.
Le dessus, parce que les cyclotrons, comme celui qu'on trouve à Sherbrooke, n'ont pas attendu la crise des isotopes pour se rendre utiles. Hein. On s'en servait déjà pour produire d'autres radioisotopes qui, eux, sont utilisés avec d'autres types de caméras. C'est ce qu'on appelle les caméras TEP pour tomographie à émission de positrons. Et ces caméras-là, ben, elles sont plus récentes que celles qui dépendent du technétium 99. C'est une autre technologie, plus chère, mais qui a l'avantage de ne pas dépendre de produits issus de réacteurs nucléaires. Et ces appareils TEP sont de plus en plus populaires dans les hôpitaux. D'ailleurs, l'an dernier, c'était la première fois qu'on en vendait aux États-Unis plus que des appareils d'imagerie dites conventionnels. Donc, qui sait, c'est peut-être de là que viendra une partie de la réponse.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
L'un était un grand pharaon d'Égypte et son mystère alimente la chronique depuis la découverte de son tombeau dans la vallée des rois en 1922. L'autre était, jusqu'à présent, un illustre inconnu du Groenland, un sakak. Mais les deux hommes, tous les deux morts il y a des milliers d'années, ont livré quelques-uns de leurs secrets intimes, Sophie-André Blondin, l'un dans le Journal of the American Medical Association, le JAMA, et l'autre dans la revue Nature.
Oui, Yannick, et pour les chercheurs, le plus bavard des deux n'est pas le plus connu ou celui qui a laissé derrière lui le plus d'indices. Alors, la momie de Toutankhamon, puisqu'il faut l'appeler par son nom, a été découverte, vous l'avez dit, en 1922. Elle était entourée de dépouilles de plusieurs proches parents, d'autres momies, des objets de luxe aussi. Tout ça a traversé les millénaires avec lui. Par contre, le sakak du Groenland, lui, n'a laissé derrière qu'une mèche de cheveux. Mm-hmm. Eh bien, si l'étude de l'ADN des momies royales égyptiennes a permis d'en apprendre un peu plus sur la vie et sur la mort de Toutankhamon, la mèche de cheveux de l'inconnu qui venait du froid a mieux conservé son ADN, elle est moins contaminée par de l'ADN moderne, et cette petite mèche a permis de séquencer le premier génome presque complet d'un homme préhistorique.
Alors, vous allez nous le présenté.
Oui, il s'agit d'un des premiers habitants du Groenland qui vivait là il y a environ 4000 ans, issu des peuples qu'on appelle les paléo-esquimaux. L'équipe menée par le chercheur danois Eske Villerslev l'a surnommé Inuk, ce qui veut dire l'homme, la personne. Le professeur de l'Université de Copenhague avait déjà réussi l'an dernier à séquencer le génome d'un mammouth. Et depuis ce temps-là, il cherchait un échantillon humain préhistorique pour continuer ses travaux en paléogénétique. Il a cherché partout sur le terrain, dans le froid, dans la glace. Et finalement, il cherchait un échantillon non contaminé.
Oui. Mm-hmm.
Il a retrouvé dans un tiroir à Copenhague, dans un musée, cette touffe de cheveux qui avait été découverte dans les années 80, qui avait été conservée, oubliée depuis, un échantillon non contaminée par de l'ADN d'hommes modernes et qui a permis à l'équipe de chercheurs de reconstituer à 80% le génome de celui qu'on a surnommé Inuk. Le paléogénéticien Ludovic Orlando de l'Institut génomique fonctionnel de Lyon fait partie de cette équipe qui a franchi une étape importante, 2 ans d'ailleurs après avoir réussi une première étape en séquençant l'ADN des mitochondries de cet homme préhistorique.
Cette première étape-là était très importante parce que le génome d'une mitochondrie, c'est de l'ordre de 16 000 petites lettres, alors que le génome que l'on porte dans nos chromosomes nucléaires, lui, fait au moins 3 milliards de petites lettres.
Et c'est le premier génome d'un homme préhistorique.
Exactement. C'est non seulement le premier à être séquencé quasiment entièrement chez un homme, c'est-à-dire chez un individu passé de notre propre espèce, mais c'est également plus que ce qui a été publié il y a maintenant un petit peu plus d'un an sur le mammouth lui-même, qui est aussi un animal préhistorique. Et c'est infiniment plus que ce qui a été publié au cours des deux dernières années cette fois sur un autre homme préhistorique, à savoir l'homme de Néandertal. Alors, ce dont il faut vraiment bien se rendre compte, c'est qu'effectivement, avec cette publication-là, c'est un palier quantitatif qu'on a franchi, puisque c'est la première fois, comme on le disait, qu'on atteint autant d'informations séquencées. Mais c'est aussi un pas qualitatif qui a été franchi, puisque jusqu'à présent, les données des génomes du passé, ou des parties des génomes du passé, avaient toujours la fâcheuse tendance à faire fi de problèmes potentiels tels que, d'une part, la contamination et, deuxièmement, la dégradation de l'ADN. Parce que, voyez-vous, pendant la fossilisation, même si ça se produit dans des glaces, comme c'est le cas au Groenland, eh bien l'ADN va subir des dégradations. Par exemple, les molécules vont se casser. Par exemple, certaines des petites lettres dont je parlais vont être modifiées en d'autres petites lettres. Et comme la nature du message que l'on observe, c'est précisément la séquence des petites lettres, si certaines de ces lettres ont été changées, alors vous comprenez de facto que l'ensemble du message prend une toute autre tournure.
Et qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à éviter ces écueils ?
Alors ici, par la mise au point de méthodes tout à fait particulières pour la première fois dans cette discipline, et en particulier une méthode très simple qui consiste, pour lire ces petites lettres, à utiliser des enzymes qui décrochent, qui ne font pas ce travail de lecture dès lors qu'elles sont face à une dégradation.
Elles identifient la dégradation et l'ignorent.
Et l'ignorent, voilà, exactement, sans mettre à la place de cette information-là une information erronée. Alors, de fait, évidemment, on ne peut se permettre de faire ça que dès lors qu'on est sûr d'avoir un échantillon dont l'ADN est très très bien conservé, puisque, par définition, de très nombreuses molécules vont être dégradées, et donc c'est autant de molécules en moins à se mettre sous la dent pour parvenir au but final qui est la séquence complète.
Alors Sophie-André, vous l'avez dit, hein, quelques grammes de cheveux, mais vraiment une tonne d'informations vraiment très précieuses. Et même, on a fait le portrait de cet Inuk.
Oui, un portrait potentiel, puisque la génétique indique ce qui est possible, ce qui est probable de retrouver chez un individu. Il aurait donc eu la peau plutôt foncée. Il était du groupe sanguin A positif, ça c'est certain. Mm-hmm. Il avait une tendance à la calvitie. Il était prédisposé à faire des otites en raison de sa cire d'oreille qui était plutôt sèche.
C'est beaucoup de détails cet individu. Beaucoup de détails intimes. Est-ce que son génome permet d'en savoir un peu plus maintenant sur le peuple, sur les origines de ce peuple-là?
Mais la comparaison de son génome a montré qu'il était plus près des peuples de la Sibérie orientale, comme les Chukchi, que des Inuits du Grand Nord canadien. Et ça oblige à revoir les migrations de peuplement de l'Arctique. Ça confirme aussi la qualité de l'ADN qu'on a trouvé. Ludovic Orlando.
Cela a deux conséquences très très importantes. La première, puisqu'il n'y a pas d'association entre ce paléo-esquimau et les Européens, eh bien c'est que les Européens qui ont fait l'étude n'ont pas contaminé cet échantillon. Donc le résultat majeur et très très important ici, c'est bien de se rendre compte que ce génome est d'une très très grande qualité et quasiment exempt de contamination par de l'ADN exogène, ce qui était d'ailleurs une des pierres d'achoppement de l'étude néandertalienne entreprise à l'échelle génomique. Et deuxièmement, les populations est-sibériennes qui ont été trouvées démontrent de manière absolument directe le lien entre ce peuple paléo-esquimau, donc le premier à peupler le Groenland, et des populations de l'est de l'Eurasie.
C'était donc le paléogénéticien Ludovic Orlando, qui est co-auteur de l'article qui a été publié dans la revue Nature, au sujet donc du premier génome d'un homme préhistorique.
Et la proximité de cet homme avec les peuples de la Sibérie indique donc qu'il n'y a pas de continuité dans le peuplement de l'Arctique, mais des vagues distinctes de peuplement pour les paléo-esquimaux du nord du Canada et ceux du Groenland. Et à titre d'indication, les Inuits d'aujourd'hui, eux, sont issus de la culture Thule, qui a ses origines il y a environ 1000 ans, un peu plus tard. Damian Labouda est généticien au Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Il étudie lui aussi l'ADN ancien pour mieux comprendre le peuplement de la Terre par les humains. Et c'est une histoire qui est d'autant plus difficile à écrire quand, comme c'est le cas pour différents peuples paléo-esquimaux, les cultures n'ont pas laissé de descendants. Et pour lui, la réussite du séquençage du génome de cet homme préhistorique, ça marque un tournant.
Moi, je considère ça comme une étape très importante, étant donné qu'on est capable d'aller vers le passé un peu comme les paléontologues, mais faire la même découverte au niveau d'ADN. Et c'est très important parce que s'il y a certains mouvements migratoires qui n'ont pas donné des descendants aujourd'hui, naturellement, on ne peut pas les retracer et cette histoire n'est pas complète. Donc ici, il s'agit de quelque chose à profondeur de quelques milliers d'années seulement, mais j'espère qu'on pourra peut-être, avec les analyses futures, aller plus loin. Et naturellement, on attend maintenant le génome de Néandertal qui est fait par le groupe à Leipzig, par Svante Paabo, parce que ça, c'est notre cousin. Et ça va nous donner énormément d'informations sur le passé génétique de notre espèce aussi.
Le problème quand on tente de faire ces génomes ou étudier l'ADN ancien, c'est toujours le problème de contamination. Là, exceptionnellement, il s'agit d'une mèche de cheveux, un, conservé dans le froid, deux, oublié pendant des décennies, donc non manipulé. Est-ce qu'on peut espérer trouver, dans des milieux moins froids et dans des conditions différentes, des échantillons qui soient aussi précieux?
Ça, c'est le plus grand problème, parce que une source de contamination, c'est manipulation par les humains. Et donc, naturellement, chacun de nous laisse les traces d'ADN. Et étant donné qu'il s'agit d'ADN contemporain, qui n'est pas endommagé, il va dans un échantillon qui est traité de façon pour amplifier ce qui reste. L'ADN contemporain va s'amplifier de préférence et naturellement va prendre plus de place que l'échantillon qu'on veut analyser. Mais le grand problème, c'est aussi la contamination bactérienne, les champignons, toutes sortes de micro-organismes qui se trouvent, par exemple, dans les caves et dans le sol. Et c'est pour cette raison, si on trouve des échantillons qui sont dans le climat plus humide, moins froid, c'est très difficile. Le problème, c'est que naturellement, nos origines sont africaines. Donc, on voudrait trouver des échantillons comme ça, là où le climat n'est pas aussi bon pour préserver les échantillons. Mais c'est très difficile.
Le généticien Damian Labouda, bien sûr, on peut pas tout avoir, hein, dit-il. On peut pas avoir la chaleur, puis les beaux échantillons d'ADN bien conservés.
Hein. Et c'est voilà. Précisément, Yannick, ce qui plombe les découvertes publiées cette semaine au sujet de Toutankhamon dans le Journal of the American Medical Association, le JAMA. L'équipe de l'égyptologue Zahi Hawass a étudié l'ADN de Toutankhamon et celui aussi de 11 momies royales de son entourage. Résultat. Toutankhamon est effectivement mort à 19 ans. Il serait bien le fils d'Akhenaton, mais pas celui de Néfertiti.
Ah.
Pas non plus celui de Kia.
Oh.
C'était une autre épouse qui était évoquée comme mère. En fait, sa mère serait aussi sa tante, la sœur de son père.
Ah, oh, mon Dieu, oui.
Autre information, Toutankhamon ne serait pas mort empoisonné 1330 ans avant notre ère. Il aurait plutôt succombé à la combinaison malheureuse du paludisme et des complications d'une fracture à la jambe, complication amenée par une maladie osseuse congénitale qu'on appelle la maladie de Kohler. Mais comme toutes ces informations proviennent d'échantillons d'ADN qui ont toutes les chances d'avoir été dégradés et contaminés, il faut les mettre en perspective, ce que fait Ludovic Orlando, paléogénéticien en France.
Toutes les études publiées à ce jour dans le domaine de la paléogénétique convergent pour dire que l'Égypte, et en particulier les tombes pharaoniques, sont des environnements assez peu propices à une bonne conservation de l'ADN. Imaginez que vous exposiez un pharaon, ou quel que soit le matériel, au grand public, dans des musées par exemple. À ce moment-là, c'est autant de contacts potentiels avec votre échantillon. Alors effectivement, quand vous analysez de l'ADN du passé d'un mammouth, par exemple, le fait qu'il soit contaminé par de l'ADN humain, c'est pas très grave, ça ralentit les analyses, ça fait beaucoup d'analyses pour rien, mais on arrive génétiquement à faire la différence entre un humain et un mammouth. Le problème avec un humain du passé, c'est qu'il est très très difficile de faire la différence entre un humain qui vivait il y a quelques milliers d'années et nous-mêmes, car génétiquement, c'était nos semblables. Cela dit néanmoins, dans cet article-là, les auteurs ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de maximiser la quantité d'informations analysées, mais en aucun cas la quantité d'informations analysées n'est de l'ordre de celle dont on a discuté au début, puisqu'il s'agit ici de l'analyse en parallèle de quelques poignées de gènes, on va dire, contre un génome entier dans la première étude.
Ludovic Orlando, spécialiste de l'ADN préhistorique.
Et puis l'ADN préhistorique, c'est rare, c'est une denrée très rare,
oui.
Surtout l'ADN qui est bien conservé, mais plusieurs équipes partout dans le monde continuent de faire parler les quelques échantillons qu'on trouve. Et malgré les défis, par exemple, on attend beaucoup de l'ADN de Néandertal.
Merci beaucoup, Sophie-André.
Plaisir.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, les allergies alimentaires sont-elles de plus en plus répandues?
Il y a certainement eu au cours des 20 ou 30 dernières années une augmentation du cas d'allergie alimentaire, sauf qu'on semble observer un certain plafonnement. Une étude qui a été refaite à Montréal dernièrement n'a pas démontré de différence statistiquement significative là, dans la prévalence de l'allergie à l'arachide à Montréal entre les années 2000-2002 et 2005-2007.
C'est l'heure du facteur. Et c'est l'heure donc de la question de la semaine.
Bonjour, je suis Michel Forel de Batiscan. Je m'intéresse sur une donnée astronomique. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité d'utiliser Internet et j'ai constaté sur le site de Wikipédia que le demi-grand axe de l'orbite de la planète Uranus a augmenté d'environ 15 fois la distance de la Lune par rapport à l'année dernière. S'il ne s'agit pas d'une erreur, je voudrais savoir ce qui se passe au sujet de la planète Uranus. Qu'est-ce qui rend le calcul de son orbite si difficile? Va-t-elle finir par quitter le système solaire? Merci et au plaisir d'avoir de vos nouvelles.
Et oui, on vous en donne de nouveaux nouvelles, M. Forel. Donc, Chantal Srivastava, pour répondre à votre question, s'est adressée à Robert Lamontagne, qui est professeur d'astrophysique à l'Université de Montréal. Il explique tout d'abord ce qu'est le demi-grand axe de l'orbite d'une planète.
Les planètes tournent autour du Soleil. Et la forme de l'orbite n'est pas parfaitement circulaire. Alors, c'est plutôt une ellipse. Et bon, si vous dessinez une ellipse sur une feuille de papier, vous pouvez définir votre ellipse en termes de deux grandeurs qu'on appelle les deux axes. Il y en a un qui est très grand, puis un qui est un peu plus court. Alors, le demi-grand axe, c'est la moitié, justement, de cette grande longueur. Et grosso modo, ça correspond à la distance moyenne entre la planète et le Soleil dans le système solaire.
Alors, est-ce qu'il est possible, tel que l'évoque notre auditeur, M. Forel, que pour la planète Uranus, ce demi-grand axe est augmenté d'environ 15 fois la distance Terre-Lune en une seule année? Est-ce que ça se peut?
Ce serait très surprenant. En fait, ce que je soupçonne, c'est que, bon, l'encyclopédie Wikipédia en ligne, c'est une encyclopédie interactive et probablement que quelqu'un a apporté une modification à la valeur. Maintenant, à titre d'exercice amusant, je me suis penché sur divers sites, soit sur Internet ou même dans des bouquins d'astronomie et j'ai été voir dans les tables. La distance moyenne entre Uranus et le Soleil ou son demi-grand axe, on donne pas toujours la même valeur. Il y a des variations de l'ordre d'à peu près 8 millions de kilomètres ou à peu près 15 à 20 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Alors, on a une bonne précision, mais bon, à quelques millions de kilomètres près, surtout pour des objets très loin, il y a pas une grande surprise là-dedans.
Ce qui est le cas d'Uranus. Cela étant dit, Robert Lamontagne, est-ce qu'il y a des variations, justement, dans l'orbite et dans la distance dans ce grand axe là, pour une planète comme Uranus ou pour les autres corps célestes? Est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce que ça varie?
Ça varie. Alors, et l'explication est relativement simple. On pourrait imaginer un système planétaire très, très simple. Une étoile, le Soleil, et une seule planète, disons la Terre, et la Terre toute seule, même sans la Lune. Alors, dans ce cas-là, on aurait affaire à une orbite extrêmement stable qui ne varierait pas. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil serait toujours la même. Mais dès qu'on introduit d'autres corps, la Lune qui tourne autour de la Terre, ou Mars et Jupiter et Saturne qui tournent dans le système solaire, chacun de ces objets tire un peu de son côté, exerce une force gravitationnelle, et donc, mutuellement, ils s'influencent tous les uns les autres.
Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à vouloir dire, comme le demande M. Forel, que Uranus va quitter le système solaire un jour?
Je crois pas. Dans le cas de ces gros objets, ils sont tous passablement liés au Soleil. La force gravitationnelle est extrêmement grande. Par contre, les petits objets, qu'on pense à des astéroïdes ou à des planètes naines ou à des noyaux de comètes, eux peuvent changer de trajectoire assez facilement à cause de ces influences gravitationnelles là, de l'ensemble des corps dominants du système solaire. Alors, certains peuvent être éjectés, d'autres peuvent être déviés sur des trajectoires qui les amènent plus près du Soleil, donc ils vont traverser traverser l'orbite de différentes planètes. Il y a des risques de collision, de bombardement qui peuvent devenir assez substantiels. D'ailleurs, il y a une phase de la formation du système solaire qui est connue comme la phase du grand bombardement. En tant la Terre que la Lune, que la planète Mars, les objets du système solaire ont été très fortement bombardés par des petits objets, des débris, des cailloux, des roches. Et ce qu'on pense, c'est que ce sont des variations des orbites des planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui ont perturbé la trajectoire des petits corps célestes, les noyaux de comètes au-delà de l'orbite de Neptune, les astéroïdes entre Mars et Jupiter. Alors, tous ces objets-là ont eu des trajectoires perturbées, puis certains d'entre eux sont venus nous frapper.
Bien, écoutez, Robert Lamontagne, je vous remercie infiniment pour ces précisions. Merci beaucoup.
Ça fait un plaisir.
Au revoir.
Chantal Srivastava s'entretenait avec Robert Lamontagne, qui est professeur d'astrophysique à l'Université de Montréal. Si vous avez, vous aussi, des questions de science, vous pouvez nous poser par téléphone idéalement. Donc, vous faites dans la région de Montréal le 514-597-6166. Et d'ailleurs, au pays, un numéro sans frais, bien sûr, le 1-800-752-9050. La chronique des années-lumière avec cette semaine Yves Gingras, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Alors, sociologue des sciences, sociologue qui aime regarder la réalité contemporaine. Une des facettes de la réalité dont on parle beaucoup, c'est la Chine qui se développe à toute allure. Et c'est vrai probablement aussi en science, croissance spectaculaire de la science chinoise, est-ce que mon impression est fondée?
Oui, on peut dire qu'au cours des 10 dernières années, la Chine a eu une croissance exponentielle de sa production scientifique. Comment le mesurer? Bien sûr, il y a plusieurs indicateurs, mais un qui est typique et qui nous permet de comparer avec d'autres pays, c'est de regarder en gros le nombre de publications scientifiques par pays.
Dans des revues internationales reconnues.
Donc, on a une base de données à peu près standard qui contient 15 000 revues, disons en gros, dans les meilleures revues. Et donc, on voit que si on se place une dizaine d'années, en 1995, par exemple, la Chine occupait le 8e rang des pays
quant au nombre de publications. C'est ça, oui. Mm-hmm.
Et donc, on avait d'abord, bien sûr, les États-Unis, suivi du Japon, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays habituels.
Et
donc,
en 8e position arrivait la Chine.
Mais depuis 1995, alors que la plupart des pays, même je dirais tous les pays européens dominants du G8, ont une croissance à peu près linéaire de la production scientifique, la croissance de la Chine a été exponentielle, ce qui veut dire que depuis 2005, la Chine occupe la deuxième position en termes de nombre brut de publications scientifiques. C'est déjà un indice. Un second indice qui est intéressant, c'est le nombre de chercheurs et d'ingénieurs. Le National Science Indicators, qui est publié aux États-Unis à chaque deux ans, vient de faire son rapport en 2010, qui donne toutes ses statistiques sur le monde. Et il nous apprend qu'aujourd'hui, on peut évaluer que le nombre de chercheurs et d'ingénieurs scientifiques en Chine est égal à celui qu'on retrouve aux États-Unis ou en Europe. Donc, l'Europe pris comme Union européenne,
oui.
Les États-Unis pris comme, évidemment, comme pays, et la Chine sont un pied d'égalité en termes donc, de main-d'œuvre scientifique. C'est un indice
c'est
là que c'est considérable. Et aussi, finalement, ce qui explique probablement cette croissance exponentielle, le gouvernement s'est donné comme objectif que d'ici 2020, la Chine va devenir une grande puissance mondiale scientifique.
Ça, ce sont les faits. Et maintenant, évidemment, vous aimez toujours, Yves Gingras, je vous connais bien, regarder les effets peut-être pervers de ce développement accéléré.
Exactement.
Il y en a?
Il y en a toujours. Et il y en a un qui est tout récent, qui nous a été appris par la revue Nature au mois de décembre, et on y revient au mois de janvier, c'est qu'il y a un gros scandale qui secoue la communauté scientifique, non seulement chinoise, mais internationale, parce que la science est internationale, une fraude
sûr,
a souvent
oui.
des répercussions un peu partout dans le monde scientifique. C'est qu'on vient de découvrir qu'au moins 70 structures moléculaires établies au rayon X, qu'on dépose ensuite dans des bases de données des structures des cristaux, sont des structures qui ont été complètement inventées par deux chercheurs chinois de l'université de Jingangshan, qui depuis janvier ont été mis dehors de l'université, donc ont perdu leur emploi. Mais donc, ça posait une question fondamentale, c'est est-ce qu'actuellement en Chine, comme le gouvernement veut accélérer les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des incitations. Ces incitations-là sont, par exemple, des incitations salariale. On donne des primes aux chercheurs qui publieront des articles de haut niveau dans des revues internationales. Oui. Non pas des articles écrits en chinois publiés en Chine, ça ne donne pas de prime, mais un article
écrit en anglais.
En anglais dans les bonnes revues recensées dans les bases de données. Donc ça crée une incitation. On nous dit même dans les informations qu'on peut aussi avoir un avantage pour avoir des appartements. On sait qu'il y a toujours une crise du logement en Chine et que donc, comme la Chine n'est pas une démocratie mais une dictature, c'est bien le gouvernement qui décide où vous allez loger. Donc, c'est quand même surprenant. Et un effet prévisible de ça sur le plan sociologique, c'est que si vous augmentez la pression à l'originalité, la pression à l'innovation, vous allez générer statistiquement des fraudes.
C'est mais on vous dira, Yves Ingrat, que c'est une fraude sur les milliers d'articles scientifiques chinois. Vous trouvez que, vous, c'est assez important pour vraiment tirer des conclusions ce que se passe en Chine?
Effectivement. La question se pose, parce qu'on dit qu'ils sont tellement nombreux. Mais il y a deux enquêtes qui ont été faites par des Chinois eux-mêmes, qui ont enquêté auprès tout d'abord de 2000 chercheurs, dont un tiers a avoué dans le questionnaire, un tiers a avoué que, oui, parfois ils plagiaient ou même amélioraient les données. Une autre enquête auprès de celle-là de 6000 chercheurs donnait à peu près les mêmes résultats. Un tiers des chercheurs avouaient soit frauder, soit manipuler les données, soit plagier. Donc, on comprend que là, c'est un pourcentage qui est beaucoup plus élevé. On devrait s'attendre à 1 sur 10, mais un tiers, c'est énorme et c'est difficile de ne pas lier ça à la pression très forte. Parce que la croissance exponentielle dont j'ai parlé, à mon avis, n'est pas due à simplement une augmentation de la production. À mon avis, elle est due en partie à un détournement de la production. C'est-à-dire qu'une certaine production savante qui ne paraissait qu'en Chine, maintenant paraît dans les revues internationales, ce qui donne une impression de croissance rapide de la Chine. Mais je crois qu'une partie de ces articles-là existaient, mais sont détournés à cause des primes vers des revues internationales, soi-disant de haut calibre, parce qu'on pense souvent que ce qui est écrit en anglais a une valeur supérieure à ce qui est écrit en français ou en chinois.
Alors, le sociologue des sciences, ses conclusions, c'est quoi devant ça?
C'est qu'on a là un bel effet pervers du système de la recherche qui tend à insister sur les primes. Et là, on a parlé de la Chine, mais on pourrait rappeler que les universités canadiennes et probablement étrangères aussi, en particulier, il faut le dire, en sciences de la gestion, par exemple, ce système-là existe. Des professeurs qui font pareil
ici
au Canada,
oui.
On nommera pas des institutions par charité chrétienne, mais ici au Canada, il y a des universités où un chercheur qui fait une publication dans une revue soi-disant de rang 1, donc soi-disant les meilleures revues, peut avoir une prime en dollars. Ça peut être 1 000 2 000 $ pour l'article. Donc, ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est une prime pour la publication.
Et or, quand on presse le citron scientifique, on peut avoir...
Il en sort du vinaigre.
Parfois.
Donc, attention à la manie de vouloir tout ramener à augmenter l'originalité et surtout de mettre des primes qui ont l'effet pervers de dénaturer, au fond, la vraie valeur de la science. C'est qu'on publie des choses lorsqu'on les trouve et on ne trouve pas à tous les jours. Il ne faut quand même pas oublier ça.
Yves Ingrat, je vous remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Ce soir, à la télé de Radio-Canada, à 18h30, Découverte poursuit son dossier sciences et sports olympiques, patinage de vitesse, entraînement en altitude, planche à neige, hockey, etc., etc. Mais pour l'instant, vous restez avec nous à la radio, après les nouvelles, la deuxième heure des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure.
deuxième heure, deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villedieu, toujours au microphone pour vous le présenter. Alors, cette deuxième heure, elle commence avec Chantal Srivastava, qui va nous parler d'une météorite célèbre qui, de nouveau, fait parler d'elle. Après le petit journal de la science, je vous parle d'allergies alimentaires qui continuent de faire parler d'elle. Et pour finir, Gaëlle Lucia Berdou reçoit l'auteur de la semaine, Nicolas Chevassu au Louis, qui vient de publier au Seuil un iceberg dans mon whisky, un florilège d'inventions qui ne font plus parler d'elle. Mesdames, Messieurs, auditrices, auditeurs, voici maintenant pour vous une musique venue de l'espace. Venu de l'espace, ou presque, enfin, parce que ce que vous entendez maintenant, c'est une transposition en son de résultats étonnants. Des résultats qui nous font voir la célèbre météorite de Murchison sous un jour vraiment nouveau, Chantal Srivastava.
Oui, Yannick, alors cette météorite qui est tombée en Australie en 1969 et qui a été énormément étudiée depuis. Alors, l'intérêt des météorites, c'est bien sûr qu'elles sont en quelque sorte des fossiles qui remontent, si vous voulez, à l'époque de la naissance de notre système solaire. Et cette musique que vous avez entendue, c'est la transposition sonore de résultats d'analyse faits sur cette météorite de Murchison par le chimiste Philipp Schmidt-Koplin du centre Helmholtz de Munich en Allemagne. Des résultats qui viennent d'être publiés dans les Proceedings of the National Academy of Sciences aux États-Unis. Philipp Schmidt-Koplin, pour vous situer, c'est un spécialiste de la chimie du vivant. Mm-hmm. Alors, normalement, ce qu'il cherche, ce sont ce qu'on appelle des biomarqueurs qu'il va chercher dans des liquides corporels, comme le sang ou l'urine. Et ce qu'il veut, c'est détecter la présence de maladies. Eh bien, là, il s'est demandé ce qui se passerait s'il utilisait ces mêmes techniques pour analyser des échantillons de la météorite de Murchison, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ce qu'il a découvert est tout à fait fascinant. On l'écoute.
Le météorite de Murchison est tombé il y a 40 ans déjà, donc beaucoup de gens l'ont regardé avec différents outils analytiques, le plus souvent très ciblés sur des acides aminés, sur des sucres, même sur des nucléotides, qui ont été trouvés l'année dernière dans ce caillou-là. Et nous, on a utilisé une méthode qu'on utilise au centre Helmholtz à Munich, plutôt pour l'analyse de biomarqueurs. On a utilisé de la spectroscopie de masse de ultra haute résolution. Et avec cette méthode-là, c'est une méthode qui est non ciblée. Donc en fait, on essaie de voir le plus de signaux possibles qui correspondent en fait à des informations structurales, des molécules qui sont présentes dans les extraits du météorite qu'on a effectué. Et en fait, on obtient une distribution spectrale qui est plus grande que toute mesure spectrale qu'on a pu faire ces dernières années avec des échantillons du vivant ou de géochimie organique. La complexité, enfin la diversité était beaucoup plus haute que ce qu'on a l'habitude de voir dans les systèmes vivants. Et ça, c'est fantastique. Quand on a vu ça la première fois qu'on a fait une analyse, comme dit, j'ai téléphoné à ma femme pour lui dire « Chérie, ce soir, je viendrai plus tard ». Et effectivement, la nuit était très longue, on a répété les expériences à plusieurs reprises, et on était fascinés, en fait, par cette diversité chimique qui était présente dans ce météorite.
Le chimiste Philipp Schmidt-Koplin, donc du centre Helmholtz de Munich en Allemagne. Donc Chantal qui est rentré bien tard à la maison le soir où il a découvert toute cette diversité chimique dans la fameuse météorite.
Il me disait, Yannick, qu'il estime à 14 000 le nombre de formules élémentaires qu'il y a dans cette fameuse météorite. Alors, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'une formule élémentaire, c'est un arrangement d'atomes. D'accord. Et sous chacune de ces formules peut se cacher éventuellement une multitude de variantes, ce qui fait donc dire à M. Schmidt-Koplin que potentiellement, on pourra avoir dans cette météorite de Murchison des dizaines, voire des centaines
centaines de milliers de composés organiques. Bref, la diversité chimique de cette météorite est beaucoup plus vaste que ce qu'on trouve aujourd'hui sur Terre, il le disait. Et donc, j'étais évidemment très curieuse de voir de quoi elle avait l'air, cette météorite. Je suis donc allée au Planétarium de Montréal, où j'ai été accueillie par le directeur Pierre Lacombe, qui m'a montré des fragments de cette météorite. C'est somme toute assez minime. Hein? Si on voyait ça sur le trottoir, on n'en ferait pas de cas.
Non, effectivement, vous avez tout à fait raison. Les fragments que nous avons sont peut-être la grosseur d'un pouce ou d'un bout de doigt, donc c'est quand même assez petit. Sont très anguleux, beaucoup d'angles. Évidemment, c'est des morceaux très friables, donc on manipule le moins souvent possible. C'est une météorite qui est tout d'abord extrêmement très foncée, très noire, comparativement à d'autres météorites qui sont beaucoup plus grisâtres. Donc ça, c'est une partie, c'est quelque chose d'assez spécial. Et elle a aussi certains, on appelle ça des inclusions, des petits morceaux qui apparaissent un petit peu plus pâles, plus métalliques. On appelle ça des inclusions. Alors, c'est une météorite qu'on utilise souvent l'expression des briquettes de charbon, là, un peu pour... ça ressemble beaucoup à ça.
Alors, cette météorite de Murchison, elle est très spéciale parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup étudiée. Pouvez-vous nous raconter un peu sa petite histoire? Comment elle est tout d'abord arrivée jusqu'à nous?
Bon, évidemment, c'est un parcours assez difficile parce que la roche doit traverser l'atmosphère terrestre. Donc, on est chanceux dans la mesure où une bonne partie de cette pierre-là a réussi sa traversée et est tombée au sol. Ça a tombé en Australie, à 150 km au nord de Melbourne, un dimanche matin. Beaucoup de gens étaient à la messe et tout le monde a bien entendu un boom sonique et quelques minutes plus tard, les gens ont découvert comme ça des roches au sol. Et comme c'était dans le jour, ben, ça a été récolté assez rapidement et avec soin. Alors, ça a été bien protégé. Et ça a permis aux chercheurs parce qu'il y a toujours le danger de contamination hein, des météorites qui nous arrivent de l'espace. Et dans ce cas-ci, ça a été excellent là, comme récolte.
Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On les a rapidement analysés parce qu'on avait des installations pour le faire à l'époque?
Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est passé en 1969, alors une année qui devrait rappeler à certains un peu l'histoire de l'homme sur la Lune, etc. Donc, la NASA avait construit des laboratoires assez sophistiqués pour l'analyse des roches lunaires. Et comme cette météorite Murchison est tombée en septembre, alors les laboratoires étaient disponibles. Alors, rapidement, il y a des échantillons qui se sont retrouvés là-bas et on a pu analyser dans les meilleures conditions cette météorite-là. Cette météorite-là est assez particulière comparée à toutes les autres et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle l'âge de la météorite est de l'âge du système solaire. Donc, ça nous informe sur les conditions autant chimiques que physiques qui régnaient à l'origine de la formation du Soleil et des planètes. Et c'est pour ça que ces météorites-là, comme il n'y en a pas beaucoup, quand on en trouve une, on la garde précieusement dans les collections et on l'analyse.
Il y en a combien au total qui peuvent se comparer à celle-là?
Je vous dirais que les météorites carbonées, on en a peut-être 200 différentes dans le monde.
Pierre Lacombe, qui est directeur du Planétarium de Montréal, donc qui vous a, Chantal, montré des fragments de la célèbre météorite de Murchison.
Des roches en apparence banales, Yannick, mais qui viennent de nous révéler de nouvelles informations, on l'évoquait. Et ça, c'est un peu comme si on apprenait qu'il y a de nouveaux ingrédients dans ces briques qui ont permis de façonner la Terre où est apparue la vie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Dominique Proust, astrophysicien à l'Observatoire de Paris à Meudon. C'est un passionné d'exobiologie, donc la recherche de la vie ailleurs dans l'univers. Il nous rappelle tout d'abord en quoi les météorites peuvent nous aider à mieux comprendre d'où nous venons.
L'étude des météorites est très importante parce que les météorites sont des témoins de leur temps, c'est-à-dire que elles ont été formées dans les premiers temps du système solaire, en même temps que les planètes et en même temps que le Soleil, et même peut-être même avant même que le Soleil soit formé, puisqu'au départ il y avait un disque de gaz et de poussière, dont la partie centrale s'est condensée pour donner naissance au Soleil, et ensuite il y a une fragmentation pour donner naissance à des petits corps, des petits planétésimaux, dont certains se sont ensuite agglomérés pour donner les planètes. Donc là, ces météorites qui nous bombardent au quotidien sont des témoins extrêmement importants de la composition chimique du système solaire primitif.
Et le fait qu'on ait dans cette météorite de Murchison la plus grande diversité de composés chimiques jamais vus, qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous enseigne sur la capacité de la nature de, du milieu interstellaire, du, dans l'espace, les synthèses organiques peuvent se faire de toutes les manières possibles et suivant une palette beaucoup plus large de ce que l'on a l'habitude de faire sur Terre. C'est très intéressant parce que si on met en évidence des composés organiques, des molécules qu'on n'a pas réalisées jusque-là en laboratoire, quoi, ou qui ne sont pas vraiment connues, des associations moléculaires qui prennent des formes aussi variées et qui conduisent à la vie, là c'est tout à fait nouveau parce que jusque-là on était quand même cantonné pour rechercher la vie à ce qu'on trouvait toutes les variantes qui entrent dans la composition de l'ADN. Et si jusque-là dans l'espace on connaissait environ 130 composés organiques, dont certains comme des sucres, des riboses, entrent effectivement dans la composition, dans les briques de l'ADN, là il y a toute une palette d'éléments qui peuvent conduire à des, par synthèse ensuite, à des formes, pourquoi pas, des formes de vie que l'on n'a pas encore imaginées, pourquoi pas, le vivant sous d'autres formes, dès l'instant où il y a tous les composés, ils sont présents, qui sont dans notre vivant à nous, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le soufre, l'azote, tout y est.
Si je comprends bien, avec la publication de ces travaux-là, on ouvre tout un nouveau pan de la recherche.
Ah, c'est tout à fait intéressant pour tous les programmes d'exobiologie, oui, parce que là, ce sont vraiment des résultats tout à fait nouveaux et tout à fait passionnants pour montrer la richesse de l'inventivité, je dirais presque des étoiles. Finalement, on était resté à apprécier les étoiles, puisque nous sommes des poussières d'étoiles, comme le dit Hubert Reeves, hein. Tous les éléments de la nature n'existent que par la volonté des étoiles. Ce que l'origine de l'univers a donné les premiers noyaux d'hélium. Bon, ensuite, il y a eu, à partir de cet hélium, de l'hydrogène, etc. Mais la synthèse de tous les éléments qu'on trouve sur les tables de Mendeleïev, c'est par la grâce des étoiles, et les éléments lourds par la grâce des étoiles massives qui explosent sous forme de supernovae. Donc, c'est toute cette palette d'éléments non plus atomiques, mais d'éléments moléculaires qui sont détectés maintenant dans l'espace, oui.
On n'a pas d'éléments fondamentaux différents. On parle toujours quand même de carbone, d'azote, d'hydrogène, de soufre, d'oxygène, la recette de base, quoi.
Oui, parce que les éléments, si on découvrait, ça serait très difficile de découvrir de nouveaux éléments inconnus. Je dirais pas qu'il y en a pas, mais le problème, c'est que leur stabilité, leur durée de vie est telle que les mettre en évidence au niveau du laboratoire relèverait de la prouesse, mais en mettre en évidence dans l'espace, ce serait encore plus difficile pour l'instant, oui.
Ben écoutez, Dominique Proulx, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces commentaires avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Dominique Proulx est astrophysicien à l'Observatoire de Paris à Meudon. Merci beaucoup, Chantal.
Il y a fort à parier, Yannick, que ces travaux, donc les scientifiques ont maintenant, grâce à ces travaux, commencé à écrire un nouveau chapitre dans le grand livre qui nous raconte l'histoire de nos origines.
Eh bien, remercie, Chantal.
Je vous en prie.
Vous déployez des trésors d'imagination pour briser la routine? Ne cherchez plus, c'est peine perdue, si on en croit des chercheurs américains qui ont étudié les déplacements de 50 000 usagers de la téléphonie cellulaire. Ils les ont suivis pendant 3 mois grâce aux antennes qui captaient les signaux de leur téléphone pour savoir où ils se trouvaient à toute heure du jour. Après avoir analysé l'entropie et la prédictabilité de leurs allées et venues, ils constatent que dans 93 % des cas, le passé est garant de l'avenir et les déplacements des gens les plus casaniers comme des plus grands voyageurs peuvent être prédits. L'étude intitulée « Les individus spontanés sont essentiellement absents de la population » est publiée dans la revue Science. L'un des auteurs conclut que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, ennuyants.
La course pour construire l'éolienne la plus puissante qui soit est officiellement lancée. La Norvège a annoncé cette semaine la construction prochaine d'une éolienne flottante de 10 mégawatts, de quoi alimenter 2000 foyers. 10 mégawatts, c'est presque trois fois plus que les éoliennes actuellement en service. Mesurant 160 mètres de haut et 145 mètres de diamètre, cette énorme éolienne serait deux fois plus grande que les engins actuellement en service. Et la Norvège n'est pas seule sur la ligne de départ dans cette course au gigantisme. Les Britanniques et les Américains ont eux aussi annoncé au cours de la dernière année des projets similaires qui devraient voir le jour d'ici le milieu de la décennie.
Des physiciens ont réussi à atteindre une température de matière de 4000 milliards de degrés Celsius, 250 000 fois plus chaud que dans le centre du Soleil. Il s'agit de la température la plus chaude jamais mesurée dans l'univers. Pour atteindre cette température, ils ont provoqué des collisions entre des ions lourds, des atomes d'or, dans le RHIC, le Relativistic Heavy Ion Collider, un accélérateur de particules. Les collisions ont créé de minuscules bulles dans lesquelles la température s'est élevée à 40 fois celle que l'on trouve à l'intérieur des supernovae et pour lesquelles les lois connues de la physique ne s'appliquent pas. En créant ce bouillon de particules subatomiques, les chercheurs de l'Université du Colorado espèrent reproduire les conditions qui prévalaient quelques microsecondes après le Big Bang.
Allergies alimentaires, allergies aux arachides surtout. Quel parent n'est pas touché par ces réalités, soit parce que son enfant est allergique aux arachides ou à d'autres aliments, soit parce que, dans l'école de son enfant, un ou des enfants le sont. De plus en plus, on fait donc la chasse à tout ce qui peut contenir des arachides, comme le veut la formule, et cela non seulement dans les écoles, mais aussi dans les avions, où des voyageurs réclament des environnements sans traces d'allergènes. Jusqu'où faut-il aller dans cette guerre aux allergènes de l'alimentation? Peut-on craindre les arachides sans les banaliser, car les accidents peuvent être très graves, mais aussi sans les diaboliser, car les accidents graves sont quand même très rares? Ces questions étaient au cœur d'une conférence sur les allergies alimentaires qui s'est tenue récemment à Montréal sous l'égide d'Initia, une association pour la diffusion des connaissances en agroalimentaire. J'y ai tout d'abord demandé à l'allergologue Martin Blaquière du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine s'il y avait effectivement une augmentation des cas d'allergie comme on l'entend souvent dire.
Il y a certainement eu au cours des 20 ou 30 dernières années une augmentation du cas d'allergie alimentaire, sauf qu'on semble observer un certain plafonnement. Les études les plus récentes, une étude qui a été refaite à Montréal dernièrement, n'a pas démontré de différence statistiquement significative là, dans la prévalence de l'allergie alimentaire, de l'allergie à l'arachide, pardon, à Montréal entre les années 2000-2002 et 2005-2007.
Mais il y avait eu augmentation. Est-ce que cette augmentation-là est une augmentation réelle ou seulement perçue, je dirais, parce que on peut se penser allergique sans l'être?
Bien, effectivement, c'est un petit peu difficile à parfois faire la différence parce qu'on reste quand même avec des petits chiffres, hein, même si dans les 20 dernières années, peut-être que l'allergie à l'arachide est passée de 0,5-0,6% jusqu'à 1,6% de prévalence. Ça reste des petits chiffres, donc la marge d'erreur pourrait être grande. Et en plus, parfois, dans les études, il est difficile de savoir si vraiment les gens sont allergiques. Quand on fait des études de prévalence comme ça, on envoie des questionnaires à des milliers de patients. Et ce n'est pas dans toutes les études où les patients sont réévalués par un médecin, où ils ont eu des tests d'allergie. Donc, effectivement, est-ce que c'est une augmentation réelle ou biaisée parce qu'on est plus efficace dans le diagnostic? Sur des petits chiffres comme ça, parfois, ça peut porter à confusion.
Et est-ce qu'on a, ça c'est l'autre grande question, est-ce qu'on a une explication à cette augmentation-là, même si elle est faible, est-ce qu'on a une explication?
Il n'y a pas vraiment d'explication parce que, de toute évidence, notre génétique n'a pas vraiment changé dans les 30 dernières années. On n'a pas nécessairement accumulé suffisamment de mutations pour que tout d'un coup, il y ait une épidémie d'allergie alimentaire. Notre mode de vie a quand même modifié. On mange des aliments plus diversifiés, on mange plus de fruits plus exotiques et des trucs comme ça. Donc, ça pourrait expliquer parfois l'apparition de nouvelles allergies. Mais la cause exacte là, de cette augmentation de prévalence, on ne la connaît pas vraiment.
Allergie alimentaire, intolérance alimentaire, est-ce que c'est la même chose, l'une étant, disons, à bas bruit, l'intolérance par rapport à l'allergie qui est plus spectaculaire? Est-ce qu'on est devant le même phénomène au point de vue biologique?
C'est vraiment deux phénomènes totalement différents. Tous les deux sont des réactions à des aliments, donc des choses qui nous sont extérieures, étrangères à notre corps. Mais les réactions allergiques, c'est vraiment une réaction qui implique le système immunitaire. Donc, c'est votre système immunitaire qui réagit à habituellement une protéine alimentaire qui est étrangère à notre système, un peu comme s'il réagissait à une infection ou pour combattre un virus ou une bactérie ou un parasite. Tandis qu'une intolérance, c'est une vraie réaction, mais c'est pas une réaction qui va impliquer le système immunitaire. Que ce soit les palpitations avec la caféine ou l'insomnie, oui, c'est une réaction, mais c'est pas une allergie.
Est-ce que les gens, dans la population, on confond pas les deux et est-ce que ça amène pas justement cette apparente augmentation de l'allergie alimentaire dans la population?
Ben, ça peut contribuer peut-être un peu effectivement à l'apparente augmentation parce que il a été démontré quand on fait des questionnaires un peu à l'aveugle, quand on lance des questionnaires dans la population générale, près de 30% des gens dans certaines études alléguaient qu'ils avaient une allergie alimentaire. Alors qu'une fois qu'ils étaient pris en charge par un médecin qui avait eu des questionnaires, des examens, des tests diagnostiques, à peu près seulement le dixième de ces gens-là avaient vraiment des allergies au sens immunologique du terme.
Alors la reine des allergies, c'est bien sûr l'allergie aux arachides, une réaction causée par quelques-unes des 25 000 protéines différentes de la plante. Quand je dis quelques-unes, c'est probablement moins d'une dizaine. Cette allergie est facile à diagnostiquer tant elle est spectaculaire, mais pour un clinicien comme le docteur Jean Paradis, allergologue au Centre hospitalier Université de Montréal, il faut quand même aller un petit peu plus loin.
Les protéines sont codées, puis à partir du moment où ils sont déterminés comme étant la cause potentielle d'allergie, ils vont avoir un numéro de code qui vient de leur nom latin, donc Arachida, donc Ara H1, qui est la première ou la plus importante documentée, et Ara H1, 2 et 3 sont responsables des réactions les plus sévères avec les arachides. Et là, on descend à 5, 6, 7, puis la huitième, qui est Ara H8, est une allergène qui cause des allergies de beaucoup moins grande intensité parce que cette allergène-là est sensible à la chaleur ou aux enzymes digestives. Ce qui fait que quand on l'absorbe, localement, au niveau de la bouche, on va avoir des symptômes, mais dès que c'est absorbé ou digéré par l'estomac, quand c'est réabsorbé, la protéine est dénaturée et n'a plus de propriété allergique. Mais ça, c'est une composante peu fréquente, c'est-à-dire le ARH8 est responsable d'un petit nombre d'allergies aux arachides. La majorité des gens avec l'arachide vont être allergiques aux premières protéines, 1, 2, 3, qui sont finalement responsables beaucoup plus d'allergies sévères.
Alors, on va quitter l'arachide pour prendre les autres aliments. Ça peut être parfois facile quand c'est une réaction évidente, rapide, spectaculaire. Mais vous, ce que vous avez dans votre bureau comme clinicien, c'est pas ça. C'est des gens qui ont des allergies alimentaires diffuses, variées, multiples, compliquées.
Ben, en fait, je dirais grossièrement, on évalue les gens qui ont des problèmes à l'absorption ou en mangeant certains aliments. Là-dedans, il y a des gens qui ont des allergies, puis il y a des gens qui ont des intolérances, puis il y a des gens qui ont des symptômes non spécifiques qui sont ni reliés à un ni reliés à l'autre. L'allergie est une composante ou une partie des symptômes alimentaires ou des problèmes alimentaires qui sont causés par le système immunitaire qui va réagir spécifiquement contre un allergène. Donc, on a des tests cutanés, qui sont des tests en scarification. On a des tests sanguins qui permettent de mesurer le dosage des anticorps allergiques spécifiques, qui sont les IgE. Et on a même aussi des tests plus sophistiqués qui permettent de mesurer spécifiquement à l'intérieur d'un aliment les protéines comme ARAH1 qu'on parlait tantôt ou, mettons, dans d'autres aliments comme la prune ou la pêche. Dans la pêche, c'est le PRU P3, qui sont des allergènes puissants qui vont causer des allergies plus sévères. Donc, on peut doser les allergènes spécifiques. Et dans certains laboratoires, ils ont commencé à doser la réaction contre les infimes petites parties des allergènes qu'on appelle les épitopes, auxquels on peut réagir.
Nous, on a l'impression que dans le domaine du diagnostic, ça bouge beaucoup. Les bons vieux tests, je dirais, cutanés, là, c'est encore utile, j'imagine, mais on s'en va vers des tests plus complexes.
compliqué, plus cher aussi, j'imagine. Les nouveaux tests sont plus compliqués, sont généralement des tests de laboratoire très sophistiqués qui ont nécessité une technologie moderne pour les développer, donc ils vont coûter. La majorité ne sont pas encore disponibles sur le marché, mais j'imagine quand ça va être sur le marché, ça va être relativement dispendieux. L'idée, c'est que ça ne remplace pas ce qui est déjà là, qui sont, à mon avis, de très bons tests. L'allergie est une spécialité où le bagage pour évaluer les patients était déjà très bon. C'est des choses un peu plus sophistiquées qui vont nous permettre d'avoir une approche un peu plus organisée de la spécialité. Mais ça remplacera pas ce qui est déjà là, qui, à mon avis, permet d'évaluer la très grande majorité des patients de façon très bien. Une bonne histoire clinique est rarement remplacée par un test de laboratoire.
Le docteur Jean Paradis, qui est allergologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Maladie cœliaque maintenant, qui est une maladie causée, on le sait, par une réaction au gluten, qui est une composante des farines de céréales. La maladie cœliaque tient à la fois de l'allergie et de l'intolérance alimentaire et elle a une forte composante génétique. Les explications d'un spécialiste de cette maladie, le docteur Idriss Djilali Saya, allergologue au laboratoire d'immunogénétique du CHU Sainte-Justine à Montréal.
La maladie cœliaque, c'est le modèle. On l'appelle le modèle des maladies auto-immunes ou maladies d'origine immunitaire parce que non seulement on connaît le facteur qui déclenche et on sait comment il produit ces mécanismes physiopathologiques. On a de plus en plus de données qui montrent comment ça se passe, la réaction, comment le gluten active le système immunitaire pour qu'il devienne nuisible à nous-mêmes, à attaquer notre intestin.
Parce qu'effectivement, donc, auto-immune, donc, la réaction fait que, bien pratiquement, et c'est ça l'origine des symptômes, au fond, et des problèmes que la personne ressent, c'est que ça attaque la muqueuse intestinale, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est bien ça, c'est que le système immunitaire attaque notre muqueuse intestinale et détruit les composants de la muqueuse intestinale, les cellules qui sont responsables du travail de l'intestin, que ce soit au niveau de l'absorption des aliments ou son contact avec d'autres facteurs pour notre défense, parce que n'oubliez pas que l'intestin, quand même, c'est l'organe le plus exposé aux produits exogènes, c'est-à-dire de l'extérieur. Donc tous les aliments passent là et on a, avec non seulement les aliments, on ramène aussi avec nous tous les micro-organismes qui se retrouvent avec les aliments. Donc l'intestin n'est pas uniquement un organe intestinal, proprement dit, il a aussi, c'est un système immunitaire, il a un organe lymphoïde à l'intérieur, spécifique, qui permet d'induire une tolérance pour tout ce que produit alimentaire.
Il y a une prédisposition génétique. Est-ce qu'on connaît bien la génétique de cette maladie, de la maladie cœliaque?
Parmi les autres maladies, c'est la génétique qu'on connaît le mieux. D'ailleurs, on l'appelle la première maladie génétique parce qu'avec sa grande prévalence dans la population, c'est 1% de la population qui est atteinte. Et on sait qu'il y a une composante génétique très forte associée avec la maladie. Et c'est des gènes qui jouent un rôle très important dans l'éducation du système immunitaire, qui, ce qu'on appelle les gènes, ont un rôle pivot dans la régulation du système immunitaire.
Une composante génétique certaine donc, mais les gènes, ça ne change pas. Les personnes qui souffrent de maladies cœliaques devront toujours éviter le gluten, comme les personnes allergiques aux arachides devront éviter les arachides. Mais pourrait-on prévenir les allergies alimentaires, faire en sorte que les gènes de ces maladies aient moins ou pas de chances de s'exprimer? Deux réponses surprenantes à ces questions. D'abord celle du docteur Idriss Djilali Saya à propos de la maladie cœliaque.
Il y a des études qui ont montré qu'on peut faire la prévention de la maladie, c'est-à-dire c'est l'introduction des solides pour les bébés. Donc il y a une fenêtre qui est de 4 à 7 mois, c'est-à-dire pas avant 4 mois et pas après 7 mois.
C'est étroit comme fenêtre.
C'est une fenêtre très, très étroite, mais qui semble donner des résultats assez importants. Donc une grande étude a été montrée que les enfants où l'introduction du gluten entre 4 et 7 mois a été appliquée, ils ont eu moins de prévalence dans ce groupe-là de maladies cœliaques que le groupe où le gluten a été introduit avant 4 mois ou après 7 mois.
Et ça, on comprend la logique de cette pourquoi ça marche comme ça?
Non, on comprend pas la logique pourquoi ça marche comme ça, mais il y a des évidences, il y a certaines hypothèses, donc surtout au niveau du système immunitaire. On sait que le système immunitaire est très dynamique dans la vie. Donc de la naissance jusqu'à l'âge adulte est très avancé et il passe de différentes étapes et d'autre part est influencé par d'autres environnements. On sait que de 0 jusqu'à 3 mois, le système immunitaire est pratiquement composé par le système immunitaire de la maman. Donc, on a encore la protection par les anticorps qui viennent de ce qu'on appelle les anticorps maternels, etc. Après 3 mois, ça commence, le système immunitaire, il commence à faire son propre système immunitaire parce qu'il commence à se mettre en contact des produits extérieurs, exogènes. Plus on grandit, plus notre système change. Alors, on a ce qu'on appelle une éducation. Une éducation de système immunitaire. Probablement, c'est la bonne fenêtre où on arrive à éduquer le système immunitaire de reconnaître le gluten comme du soi.
Le docteur Idriss Djilali Sayed, allergologue au CHU Sainte-Justine à Montréal. Et toujours sur la prévention, cette fois de l'allergie aux arachides, voici de nouveau le docteur Martin Blaquière.
Il y a des données étonnantes quand on compare certaines populations. Par exemple, il y a une étude qui a été faite chez des populations juives en comparant des juifs d'Israël et d'Angleterre. On sait qu'en Israël, les petits-enfants juifs mangent beaucoup d'arachides très jeunes. Et en Angleterre, on évite de donner de l'arachide chez les enfants de toutes les populations, mais aussi chez les juifs qui vivent en Angleterre. Et on se rend compte que les juifs qui vivent en Angleterre font beaucoup d'allergies à l'arachide et les juifs qui vivent en Israël font pas d'allergie à l'arachide.
C'est troublant quand même.
C'est troublant. Mais là, il peut y avoir plusieurs facteurs confondants. Est-ce que c'est vraiment la diète ou est-ce que c'est aussi d'autres facteurs dans l'environnement? En Israël, on est plus exposé au soleil, donc plus de vitamine D. La diète est plus méditerranéenne, plus de fruits, de légumes frais. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs confondant là, qu'on n'a pas objectivé à ce jour. En tout cas, c'est ce que cette étude-là, là, où on introduit l'arachide chez les très jeunes, est en train d'essayer de voir, là, de démontrer. Donc, on fouille, on n'a pas encore trouvé.
On est très prudent et je vous sens très prudent, mais il y a quand même aussi l'Association américaine de pédiatrie qui ne fait plus maintenant de recommandations très fermes sur le fait de ne pas introduire les aliments comme les œufs, les arachides, etc., le poisson ou les fruits de mer très tôt. On sent une prudence aussi de ce côté-là, non?
Oui, mais c'est qu'on essaie de se baser sur des évidences scientifiques et à ce jour, les études ne sont pas très concluantes, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, les recommandations qu'on a faites à l'époque, aujourd'hui, après avoir étudié l'évolution de l'allergie, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement arrivé à l'objectif voulu, c'est-à-dire à prévenir vraiment, en tout cas diminuer la prévalence de l'allergie à l'arachide, entre autres. Donc, devant le peu d'évidence scientifique, ces organismes-là sont obligés de revoir leurs recommandations. Et à ce moment-là, ils deviennent un peu effectivement hésitants et on nous laisse un petit peu en deux chaises parce que maintenant, on ne dit plus de retarder l'introduction des allergènes. Mais d'un autre côté, on ne mentionne pas non plus qu'il faille les introduire plus précocement. Donc, la recommandation finale, ce que ces associations-là disent, c'est que ben, finalement, discutez-en avec votre allergologue ou avec votre pédiatre.
Et si je suis un jeune parent et que vous êtes mon allergologue, qu'est-ce que vous allez me dire?
Effectivement, ça dépend toujours des circonstances. Je vous dirais que si vous êtes une famille très à risque, si vous avez déjà un premier enfant qui a fait beaucoup d'allergies ou qui a fait beaucoup d'eczéma, pour l'instant, même si on n'a pas de données très, très probantes, je pense que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de retarder l'introduction des allergènes dans la mesure où ça ne nuit pas à la diète et au développement du nourrisson, là.
Le docteur Martin Blaquière est allergologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et au CHU Sainte-Justine. Le docteur Blaquière me disait aussi qu'il faut encore beaucoup travailler auprès des parents, dans les écoles et même dans la communauté médicale pour sensibiliser tout le monde à la réalité des allergies alimentaires et aussi à la façon de réagir en cas de choc allergique grave. Alors, il n'y a pas que le sport qui soit en démonstration ce mois-ci aux Jeux olympiques de Vancouver. Le Canada profite de l'événement pour faire la promotion de son autoroute de l'hydrogène, une série de 7 stations-service entre Victoria et Whistler pour ravitailler des véhicules munis de piles à combustible. Des véhicules, entre guillemets, verts, puisqu'ils ne rejettent rien dans l'atmosphère à part de l'eau. Et pourtant, cette technologie reste marginale et ne convainc pas tous les écologistes, parce que pour préparer ce combustible, souvent, bien, on brûle du gaz naturel, donc on produit des gaz à effet de serre. D'ailleurs, aux États-Unis, il faut le dire, l'administration Obama, dans son dernier budget, a pratiquement abandonné la filière en prétextant qu'il n'était encore très loin le temps où l'on allait tous rouler dans des voitures à hydrogène. Alors c'est justement l'un des thèmes abordés par notre auteur de la semaine. Il s'appelle Nicolas Chevassu au Louis et il publie au Seuil « Un iceberg dans mon whisky quand la technologie dérape », qui est une histoire des échecs parfois retentissants du progrès technologique. Gaëlle Lucia Berdou l'a joint à Montpellier dans les studios de nos collègues de France Bleu.
Monsieur Chevassu-Louis, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Chevassu-Louis, vous nous présentez ce livre, Un iceberg dans mon whisky quand la technologie dérape. C'est une espèce de collection d'histoires technologiques, ce que vous appelez, vous, des bulles technologiques par analogie aux bulles spéculatives. Donc, ce sont un peu les ratés du progrès. En fait, finalement, vous nous dites que l'expression « on n'arrête pas le progrès », c'est pas vrai, on arrête le progrès.
Oui, oui, oui. On l'arrête. On se souvient de peut-être des avions supersoniques, le Concorde ou son homologue soviétique qui faisait traverser l'Atlantique en quelques heures. Ben voilà ce qui était un progrès, une technologie incroyablement moderne et perfectionnée durant toutes les années 70 et qui est maintenant envoyée à la casse, au rebut. Voilà un exemple spectaculaire d'un progrès, entre guillemets, qui a été arrêté.
Et donc, c'est une succession d'exemples très détaillés que vous nous donnez et ça donne de très bonnes histoires. Alors, commençons peut-être par celle qui a donné le titre de votre livre, Un iceberg dans mon whisky, une aventure un peu folle qui a démarré en Arabie Saoudite.
Oui, à la milieu des années 70, au début des années 70, un milliardaire saoudien, un prince saoudien, entreprend de faire remorquer des icebergs, de les capturer en Antarctique et de leur faire remonter tout l'hémisphère sud pour les amarrer au large de l'Arabie saoudite pour fournir de l'eau douce, les laisser fondre et fournir de l'eau douce pour l'Arabie saoudite. Des projets comparables sont aussi développés pour la Californie, pour la côte chilienne, pour l'Australie. Et une société est fondée pour développer les technologies nécessaires. Vous imaginez que ce n'est pas une mince affaire que de choisir l'iceberg, de le remorquer, de l'isoler pour pas qu'il fonde en route.
Évidemment,
et ensuite de l'amarrer. Voilà. Donc tout cela est étudié de la manière la plus sérieuse du monde. Il y a des congrès scientifiques, des colloques, il y a même un laboratoire de la NASA, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui travaille sur ces histoires-là. Et pourtant, aucun iceberg n'a jamais été remorqué, n'a jamais été pris en charge, malgré quelques dizaines de millions de dollars investis dans ces recherches.
Donc on n'a pas réussi à surmonter les limites techniques, peut-être? Parce qu'évidemment, ça fond un iceberg quand on lui fait traverser la mer jusqu'en Arabie Saoudite.
Certainement, mais on peut aussi l'isoler. Il y avait des matériaux, une espèce de film plastique isolant. Il était question d'entourer les icebergs de ce matériau pour les protéger du soleil. C'est pas tant une question d'échec technologique. Au fond, si on est capable d'aller sur la Lune, on est capable également de remorquer un iceberg. Vous voyez, il suffit d'y mettre les moyens dans tout ça. Il suffit d'y mettre les moyens de le développer avec patience et obstination. Non, c'est surtout des raisons beaucoup plus pragmatiques et politiques qui ont conduit à l'abandon de ce projet. Pragmatique d'abord parce que la crise du pétrole, l'augmentation du prix du pétrole en 73-74 passe par là, et donc le coût potentiel de cette opération.
Le remorquage, oui.
Voilà, le remorquage. Deuxièmement, le prince Mohamed Al-Faisal, qui était le grand promoteur de tout cela, tombe en disgrâce à la cour saoudienne, donc ses projets ne perdent, disons, du soutien politique. Mm-hmm. Et troisièmement, ça, il faut jamais l'oublier quand on parle en début d'émission du progrès, comme s'il y avait le progrès, un unique progrès. En fait, il y a toujours plusieurs voies possibles de progrès. Il y a toujours plusieurs voies possibles pour produire de l'eau douce. Et pendant que l'on réfléchissait à cette possibilité de remorquer des icebergs, bien les technologies de dessalement de l'eau de mer faisaient elles aussi d'un immense progrès et devenaient plus rentables de dessaler l'eau de mer plutôt que de remorquer les icebergs. C'est aussi ça qui entraînait la fin de cette de cette affaire qui, cela dit, n'est pas complètement enterrée. On la voit réapparaître régulièrement. Alors parfois pour produire de l'eau ultra pure, donc pour un marché, disons, de niche, de haut de gamme, mais parfois aussi pour fournir de l'eau pour les pays arides.
Alors des histoires qui réapparaissent, il y en a d'autres dans votre livre. On pense par exemple à la géo-ingénierie, donc si on veut un peu le contrôle du climat pour plusieurs raisons, par exemple pour produire de l'eau douce. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on revoit en fait ces jours-ci, qui revient un peu au goût du jour, mais qui est une vieille histoire.
C'est une très vieille histoire, le contrôle du climat. Et ce qui est ironique, et même peut-être tragiquement ironique dans cette affaire, c'est que les premiers projets de géo-ingénierie, de modification du climat terrestre, visaient au contraire à réchauffer la planète. Puisqu'on était dans une période où l'on s'inquiétait, donc dans les années, à partir des années 60, environ des années 60-70, il y avait deux raisons à ça. La première, c'était que l'Union soviétique voulait pouvoir naviguer sur l'océan Arctique pour relier sa partie européenne à sa partie asiatique. Et l'océan Arctique est pris dans les glaces durant tout l'hiver. Donc il y avait différents projets propres à l'URSS visant à réchauffer l'océan Arctique, alors soit en inversant le cours des fleuves sibériens qui se déversent et qui apportent de l'eau plus douce, donc qui abaisse le point de congélation, augmente le point de congélation. Donc soit en inversant le cours des fleuves sibériens, soit en recouvrant la glace arctique, la banquise, d'une petite pellicule noire pour qu'elle capte plus les radiations solaires. Différents projets propres à l'Union soviétique et d'autres projets, même plus internationaux, qui, cette fois, arrive dans les années 70, dans une période où on est persuadé, à l'époque, que la Terre, la machinerie climatique terrestre, va dans une période de refroidissement. Comme on voit, le New York Times cite en 1975 sur « Bientôt des glaciers à New York ». Mm-hmm. Oui, on a l'impression qu'on est dans une période de refroidissement, et à nouveau, on songe, alors, avec ces méthodes de changer la composition de la glace de la banquise en la recouvrant de pellicules de charbon, de différents produits pour qu'elle capte plus le soleil et faire fondre la banquise ou moduler le climat terrestre pour réchauffer la planète.
C'est absolument grandiose comme idée de détourner des fleuves, de les changer de sens, de recouvrir la banquise.
C'est grandiose, mais c'était étudié. Là encore, ce livre, Un iceberg dans mon whisky, ne parle pas, comment dire, de science-fiction ou de technologie-fiction. Je parle vraiment de choses qui ont été étudiées et même qui ont été qui ont atteint le stade de la réalisation du prototype. Alors, parce que ça peut paraître monstrueux d'inverser le cours des fleuves, mais on avait également des technologies à l'époque, des années 60-70, qui étaient aptes à ça. C'est l'époque où tant les États-Unis que l'URSS utilisent les bombes thermonucléaires pour des travaux publics, pour des questions de déblaiement, de terrassage. Voilà. Donc les États-Unis, d'un côté, en 63, le président Johnson signe une loi pour creuser un second canal de Panama à coup d'explosifs thermonucléaires, rien que ça. Et à la même époque, l'URSS envisage donc son programme de détournement des fleuves sibériens pour qu'ils coulent vers le sud, vers la mer Caspienne et non pas vers l'Arctique, en modifiant leur cours à coup d'explosifs thermonucléaires. Et là encore, de nombreux essais, 250 en URSS, 200 aux États-Unis, sont faits pour ajuster la puissance explosive, les organismes, enfin, bref, les utiliser comme du TNT ordinaire pour des grands travaux.
Oui, et la question nucléaire et les questions énergétiques, peut-être plus généralement, sont très, très présentes, en fait, dans les aventures technologiques qui ont échoué dans l'histoire. Il y en a beaucoup qui tournent autour, évidemment, de la recherche de sources d'énergie pour faire fonctionner notamment les transports. On voulait tout faire marcher, tout faire rouler, tout faire voler au nucléaire à une époque.
Oui, 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 jusqu'à des voitures. Ford, constructeur automobile, présente en 1958 un prototype, la Ford Nucléon, d'une voiture individuelle avec un petit réacteur nucléaire à fission à l'arrière, alors qui garantissait une autonomie de 9000 km sans changer la pastille d'uranium. Alors là, justement, celui-là n'est jamais jusqu'au stade du prototype, il est resté au stade de la maquette et du projet. Par contre, il y a eu des essais d'avions à propulsion nucléaire, et puis il y a toujours des navires à propulsion nucléaire, les brise-glaces soviétiques, il y a toujours des navires, sans parler des sous-marins militaires.
Et ce qui met fin parfois, enfin souvent même à ces aventures-là, c'est, on s'en rend compte, les fluctuations du prix du pétrole, entre autres, donc la source d'énergie la plus utilisée, du moins jusqu'à aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'il y a deux époques, si on veut, technologiques. Il y a le avant et l'après 73, donc le choc pétrolier de 73, et que ce moment est vraiment un moment charnière dans l'histoire technologique?
C'est un basculement parce qu'on se met à prendre en compte, à tenir compte du prix de l'énergie, des carburants, et on comprend, on prend conscience également aussi du fait qu'il n'y aura pas éternellement du pétrole. Alors que dans les années 50 et 60, on est dans une époque où il y a un raz-de-marée énergétique. Il y a un trop-plein d'énergie. Le pétrole est tellement bon marché et tellement abondant que l'on songe à le transformer en protéines pour la nourriture du bétail. Et c'est même pas qu'on le songe, c'est qu'une usine est ouverte dans le sud de la France, près de Martigues, près de Marseille, pour fabriquer, à partir de levures qui digèrent le pétrole, des protéines pour nourrir les cochons, les veaux. Donc vous voyez, c'est une période d'abondance énergétique absolue. Après 73-74, cette abondance prend fin et on commence à s'intéresser, alors c'est intéressant parce qu'il y a un parallélisme avec ce qu'on connaît aujourd'hui, aux énergies renouvelables. C'est le début du solaire, c'est le début de l'éolien, c'est le début de l'hydrogène comme vecteur d'énergie. Et jusqu'au contre-choc pétrolier de 86, où le prix du baril s'effondre à nouveau et repasse sous les 20 dollars, ces recherches sont actives. Puis interviennent les années 80 et 90 de pétrole bon marché, où l'on néglige les énergies renouvelables, et à nouveau, nous les voyons réapparaître, comme si les dossiers avaient été rangés, puis on les ressort après 20 ans d'éclipse, mais on les reprend souvent d'ailleurs avec les mêmes termes. La question des biocarburants, par exemple, se pose exactement dans les mêmes termes dans les années 70, et aujourd'hui, avec ce problème de, est-ce que la fabrication de carburant à partir de céréales ou de plantes de grande culture ne risque pas de détourner ces plantes et de l'alimentation humaine? C'est exactement les mêmes débats que l'on a aujourd'hui, que l'on avait dans les années 70, comme si aucune leçon n'avait été tirée de ces épisodes passés.
Alors c'est peut-être un peu ça la conclusion de votre livre, Nicolas Chevassiou-Louis, c'est que c'est pas le progrès ou la technologie qui atteint ses limites, mais c'est plutôt l'économie, la politique.
C'est bien plutôt la politique, oui. C'est qu'on parlait en début d'émission d'arrêter le progrès. Oui, la première leçon du livre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité du progrès. Il n'y a pas de fatalité. On ne subit pas l'évolution technologique. Au contraire, on peut l'orienter. Les gouvernements peuvent l'orienter en choisissant de faire porter l'effort de recherche, des subventions, d'efforts publics plutôt sur les énergies renouvelables ou plutôt sur le nucléaire ou plutôt sur la fusion nucléaire ou plutôt sur l'hydrogène. Et c'est précisément ces choix d'investissements publics qui vont orienter l'évolution technologique, je préfère parler d'évolution plutôt que de progrès, dans un sens plutôt que dans un autre, parce qu'il n'y a, ce n'est pas une longue route droite et rectiligne et tracée d'avance. Le progrès, c'est une route buissonnante avec des petits chemins, de multiples itinéraires, multiples tracés possibles, et l'un peut être emprunté plutôt que l'autre en fonction de choix politiques qui sont faits à chaque époque.
Et est-ce que l'humanité a appris de ces échecs qui sont dans votre livre, Un iceberg dans mon whisky, ou est-ce que on verra, est-ce que vous pourrez écrire dans 20 ans un nouveau livre rempli d'autres histoires qu'on vit peut-être même en ce moment?
Non, je suis certain qu'il y a d'autres bulles technologiques actuelles autour des nanotechnologies, par exemple, comme il y en a une qui vient à peine de n'éclore autour de la thérapie génique, oui, ça c'est certain.
Donc vous croyez que ce sont des choses dont on n'entendra plus parler ou qui vont s'interrompre alors qu'elles sont d'énormes espoirs pour l'instant?
Oui, ou qui rejailliront 20 ans plus tard comme si elles venaient de naître, comme si on les avait oubliées. Il y a des technologies, je pense par exemple à l'énergie thermique des mers, qui est une forme d'énergie renouvelable qui utilise la différence de température entre les eaux de surface qui sont plus froides, plus chaudes, et les eaux de profondeur qui sont plus froides en région tropicale. C'est une technologie qui remonte aux années 30, vous voyez, qui permet de produire de l'électricité en utilisant cette différence de température. Eh bien, on la voit apparaître, puis disparaître, avec des cycles de 20, 25 ans qui correspondent à des modes liés à des investissements publics. Dans les périodes où le pétrole est cher, eh bien, les États, l'État américain, l'État japonais, les Indiens, les Français, investissent là-dedans, et puis ça redisparaît, et puis ça revient. Et oui, c'est du serpent de mer, vous voyez, au sens, sens premier du terme.
L'énergie thermique des mers. Alors, si on veut en savoir un peu plus là-dessus ou sur d'autres histoires, comme les steaks de pétrole, se nourrir de pétrole ou la géo-ingénierie, on peut lire votre livre, Nicolas Chevassiou-Louis, Un iceberg dans mon whisky, c'est publié au Seuil. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Je vous remercie.
Et pour continuer à écouter Nicolas Chevassiou-Louis, vous pouvez vous rendre jeudi 25 février à 19h, donc la semaine prochaine, au Cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal, pour une conférence, pour sa conférence, sur le thème des dérapages du progrès. Alors, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec, à la technique, Michel Potvin. Les journalistes Sophie-André Blondin, Gaëlle Lucia Berdou et Chantal Srivastava, au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur invité cette semaine Yves Gingras. Futurs journalistes scientifiques, n'oubliez pas la bourse Fernand Seguin. Les détails de cette bourse sont sur notre site. Alors c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aussi, dimanche prochain, donc même poste, même heure, pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.